Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins qui vont à kermesse, comme vont à messe vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous y'a que l'été, que les fillettes encore. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs véroles en caracolant de Prosit en scroll. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. C'est plein d'Amsterdam, c'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes. C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'horizons à vous rendre fou. Mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux. On fait des montagnes avec ce qu'on peut.
La bière, la bière, oh, la bière par JB, Jacques Brel, pardon. Oui, eh bien, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus belle des radios. Et c'est la 321e édition des Petits Tas dans le Mou. Aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, c'est la Saint-Venceslas, ou Vaclav, en tchèque moderne, patron des tchèques et des brasseurs, d'où cette chanson, sur la bière. Qui était, au fond, ce fameux Venceslas, que l'on voit tout ramâché pour la guerre sur la place Venceslas à Prague. Venceslas est né en 1907. Il fut duc de Bohême, monta sur le trône en 1926, fit emprisonner sa mère parce qu'elle était païenne et que lui s'était converti. Et ceci dit, pour qu'elle ne finisse pas trop tôt, il supprima la peine de mort et fit détruire avec fracas toutes les potences de la Bohême, comme s'appelait la République tchèque actuelle à l'époque. Et bien finalement, il sera assassiné par son frère Boleslav en 1929, c'est-à-dire à l'âge de 22 ans. Et figurez-vous que, avec tout ça, ce que je viens de vous raconter, eh bien il fut sanctifié, Saint Venceslas, si vous le trouvez sur votre calendrier, pour aujourd'hui même, et protecteur des brasseurs. Bon, alors aujourd'hui, pendant une heure, on va essayer, en regardant cette statue monumentale de la place Venceslas de Prague, de poser la question, comment mettre du mouvement dans le statique? Ça, c'est le casse-tête de tous les statuaires, de tous les sculpteurs et de tous les buveurs de houblon. Parce qu'il faut mettre du mouvement dans le statique ou du statique dans le mouvement. Aussi ceux qui travaillent sur leur toit, le toit de leur maison, qui refont la toiture et qui se demandent « Oula, oula, il faut que je reste statique alors que je suis... j'ai la tentation du mouvement. Hein » Rubrique Alpha. Peinture de l'éternité. Les Carnot, c'est toute une famille qui flirte avec l'histoire de France, de génération en génération. Quand on a inauguré la statue de Sadi Carnot à Lyon, place de la République, ce furent de brillantes déclamations révolutionnaires. Le docteur Augagneur, qui était alors maire de Lyon, s'adonna à cet exercice de populisme gentil, parce que, comme vous le savez, il y a un populisme gentil et un populisme méchant, à ne pas confondre. Le maire Augagneur évoqua non pas la statue qui venait d'être dévoilée, mais la figure du grand Carnot, l'ancêtre de tous les Carnot, le conventionnel régicide, l'organisateur de la victoire, le membre du comité de salut public, impitoyable pour les traîtres. Puis, il parla du fils du grand Carnot, Hippolyte, Saint-Simonien, mathématicien et physicien, qui préconisait la suppression de l'héritage. Le docteur Augagneur, très en verve et excité par la présence du président de la République, Loubet, dressa enfin de Sadi Carnot un portrait de Jacobin à sa manière, avec tout ce que ça comporte d'exagérément emphatique. Bref. Le petit-fils était le digne successeur du PP Carnot. Le docteur Augagneur fit l'apanage de la République démocratique et sociale. Apanage que le mort n'aurait peut-être pas fait de son vivant. Et tout à coup, une foule de petites gens applaudit, elles, petites gens. À leur tour, peut-être pas au diapason des personnalités officielles ici présentes, mais aux figures de cire. Or, devant quoi restaient-elles sur la place de la République de Cire, ces figures? Les bourdonnements d'abeilles du maire de Lyon qui s'emportaient comme le génie adolescent au-dessus du président statufié, ou les atours du monument, qui certes n'était pas d'ivoire, mais bon. Vous ne pouvez plus le voir, cette historique statue, vous ne pouvez plus la voir. Il n'en reste qu'un moignon, quai de la préfecture. Et puis, il reste une préfecture. mais les murs n'y suintent plus comme à l'époque dont je vous cause. Il frappe à la porte. Personne. Il frappe à la porte. Personne. La Loire en contrebas à 200 ou 300 mètres. Plutôt 200. Il frappe à la porte. Il cogne la grosse main de fer soudée à l'anneau contre la porte en bois, la porte des communs. Mais cette porte est toujours fermée pour des raisons de voisinage faciles à deviner. Carreau du bas. Non, non, pas celui-là. Le rideau bâille, carreau du bas, visage fripé. Elle ne grimace pas et pourtant il grimace. Il frappe à la porte. Bizarrement, ses coups faiblissent. Le carreau vacille, vieux aussi et tremblotant. Il frappe à la porte. Des écailles de peinture jaune au bas du mur. Des traces d'urine. Il frapperait pareil à ses propres tempes s'il lui prenait l'envie de connaître cette île qui frappe ainsi, qui frappe parce qu'il n'existe plus que pour frapper. Tout à coup, oui, frapper est son destin. Et ses coups de doigts pliés en avant glissent contre la main de fer ridicule là, soudée à son anneau. La Loire en contrebas n'est pas ralentie par les ponts. Pour bien faire, il faudrait combler ses bras d'eau, un peu comme cette main froide greffée à une porte qui ne veut pas s'ouvrir. Le problème du doigt, c'est qu'il a une articulation et que ça commence à faire mal de frapper à cette porte où il y a cette main greffée au bois qui s'exporte, cette porte Boudiot qui ne veut pas s'ouvrir. Il arrivera un malheur. Elle longe de trop près les murs armateurs derrière lesquels les ruelles dépêchent leurs alvéoles vers les bises du marin. Air marin qui porterait le voile. Tu cesserais pour bien faire de monter à la tête avec tes mélodies criardes les étages de la rue Fourcroix, 4 à 4, jusqu'au couplet numéroté d'une pute. Carlotta. Mélodie couleur nègre, imbibée de baleines blanches.
Bonde-là. Sais-tu donc pourquoi? Qui c'est qui fait ce raffut?
Il ne faut pas. La Loire, madame. La Loire.
Ah bon? Pas pour ce ribaud qui est au-dessus. Dame, on gâche la porte. Tant pis pour tous ces salopios qui viennent à toquer.
Non, vous vous trompez, madame. Elle n'est pas au-dessus, elle est en dessous. La Loire.
Dame, ici, savez, on sait plus bien. Hein? On en voit des couleurs. Et je ne vous dis que ça.
Auriez-vous, madame, l'amabilité de me sucer?
De quoi donc vous dites? De quoi bon? Qu'est-ce que vous dites, là?
De me sucer, madame. De jeune dans le carreau. Il a claqué, comme autant des scènes de ménage, et les centaines d'écailles ont été aspirées par les montants. jaunie sans doute par l'urine. La vieille avait-elle sorti son nez, creusé de cratères ? Pourtant, derrière le carreau délavé qui ne fait pas le front de Loire, le masque chiffonné s'est mis en boule et a disparu, tout simplement peut-être, sans ouvrir le bec de canne. Personne. Il frappe à la porte. Personne. Il frappe à la porte. Il pense. Un tel masque de papier froissé, impossible sans doute qu'il coule, ça doit flotter. Quand un coup de vent le porte vers la Loire, flotter, marrant, tout chiffonné, et l'estuaire le mangera. Là-bas, qui sait, une brise nouvelle la rajeunit. Il frappe à la porte. Il double les coups, redouble les coups. La main de fer, il frappe la main de fer contre la porte en bois, l'anneau. Des coups de poing dans la porte. Puis à nouveau, le dos du majeur, droit, l'articulation. Ah, enfin, le vrai carreau rajeuni, mais qui suinte toujours, explose dans un fracas de verre mal fixé et s'ouvre. Le masque tout écrasé arrondit le trou qu'il a sous le nez. Deux ou trois dents grises font mine de chuter et de se perdre dans le rideau de même teinte, quoiqu'un peu jaune. Chotard le reconnaît maintenant, grâce à ce courant d'air qui le prend comme une haleine de morte. Il reconnaît celui qui fait ce rictus malin, la pauvre mine de la pauvre vieille. Celui qui était là pour l'accueillir, la pauvre vieille, derrière son vieux carreau. Celui qui était là pour donner le change à Carlotta, vieux, rabougri, derrière ses carreaux, même pas repeint, couleur d'éternité, dont la peinture s'écaille, la peinture de l'éternité, et qui lui parle justement de poisson pourri, ça doit être l'odeur. Mais enfin, un poisson qu'on doit noyer pour que lui pousse des ailes, autre chose peut-être. De quoi pondre ? De quoi pondre ? La vieille s'est reculée sous l'effet des écailles tombées chez elle, dans un coin de sa cuisine où tout est rangé, moisi, qui sent le moisi. Non, la laine de cette araignée acculée contre le poêle dont la fonte semble fondre. Son cœur tient bon encore à la vieille. Et il frappe, il frappe, il frappe à sa poitrine. Rubrique bêta. Comme chaque semaine hebdomadaire, chères auditrices et chers auditeurs, vous pouvez dès à présent décoller votre pavillon auditif pour vous, de votre poste à galène, pour vous orienter, si vous en avez une, vers la fenêtre de chez vous
donnant sur ce ciel, ma foi, allons se dégageant de notre bonne ville de Lyon. Et il y a quelque chance de voir apparaître la navette spéciale de Miss Cosmos et de Mister Milouz.
À la compétence de Mister Milouz aujourd'hui dans les studios de Radio Canette. Et oui, bah, ça tombe bien parce que c'était pour vous dire que ce qu'on a constaté depuis la dernière semaine hebdomadaire, c'est que l'Ouest déteste l'Est. Ah, sur le météorite. Hein. Comprenez-vous quelque chose, Alex ? Allemagne de l'Est, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette. Ce n'est plus un fragment du météorite, et ses habitants sont singulièrement fragmentés. Car chez eux, l'étranger fait peur. Pourquoi ? Parce qu'ils sont singulièrement étranges. À ce qu'on en a déduit en étudiant les données de notre télescope, de notre constellation des Pénates avec Mister Milouz depuis la dernière semaine hebdomadaire. Vous parlez de l'Allemagne obscure ou encore de trous noirs de l'Europe. La Saxe est devenue l'île brune, un repère de terroristes. L'Est et l'Ouest ne sont pas réconciliés par là-bas.
Mais on y trouve de pacifiques touristes, n'est-ce pas, Mister Milouz?
Seulement, c'est un endroit du météorite où l'on proteste. C'est un endroit aussi où les hôpitaux disparaissent. Et puis les chantiers navals se sont réduits en peau de chagrin, comme vous dites par chez vous. Et tout suit. Vous en savez quelque chose. Dans les rues, c'est tous les jours comme un dimanche. À vendre, à louer, à vendre. Alloué, c'est inscrit partout. Quelle tristesse!
Nous, avec Mister Milouz, on préfère le désert, hein, tant qu'à faire.
Qu'y aurait-il de rentable par là-bas? Vous savez, dans ces conditions, quelles politiques tirent leurs épingles du jeu? En appelant les fantômes à la rescousse.
L'Est, reste l'Est.
Même si on ne sait plus qui était Karl Marx. Il reste que le capitalisme, c'est l'ennemi. Il en donne les preuves tous les jours. Pas de voiliers sur les lacs, plus de mines de charbon. Tout a changé si vite, à ce qu'on a vu de notre constellation des Pénates au moyen de notre télescope avec Mister Milouz depuis la dernière semaine hebdomadaire. Les réfugiés, ce sont tous les habitants de cette région de Saxe, parce qu'elle est devenue une terra incognita, peuplée de laissés-pour-compte.
L'Ouest déteste l'Est, ou au mieux l'ignore. Le passé est dépassé par là-bas. L'histoire commence en l'an 1989. C'est singulier. Mais le mur est resté dans toutes les têtes.
C'est quoi être patriote, Mr. Melouz?
Une contradiction. Ouais, j'ai compris. Qu'incarne parfaitement l'Allemagne de l'Est. L'Est n'est pas l'Ouest et ne le sera pas par chez vous. Ce qui fâche l'Ouest,
qui n'aime pas les sales gosses mal élevés. Ah, vous ne vous en sortez pas avec la normalité.
Ouais, et ça se paye cher sur le météorite. Et si vous nous voyez, Mr. Melouz et Maisy, Miss Cosmos,
eh bien, peut-être que vous poseriez quelques questions, rien que finalement, sur ce qu'on appelle la normalité. Nous ne sommes ni de l'Est, ni de l'Ouest. Nous sommes de la constellation des Pénates.
Et nous allons y retourner si nous arrivons à faire démarrer cette navette spéciale.
Et on tâchera de revenir la prochaine semaine hebdomadaire,
si tout se passe bien sur le météorite.
We'll be right back. venez d'entendre quelques galettes en cristal de Bohème de King Milouz. Et c'est pourquoi je dis ça. Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est toujours la Saint-Vincenzas, patron des Tchèques, des Bohémiens donc, et des brasseurs. Et qu'on vous engage jusqu'à ce soir minuit à essayer de réfléchir en observant la statue de Saint-Vincenzas, après que vous ayez traversé le pont Charles à Prague, de vous poser la question qui taraude les sculpteurs et qui taraude les buveurs de houblon, comment mettre en mouvement le statique ou comment mettre du statique dans le mouvement? Les petits talons de bout. Rubrique Gamma. Tous les ponts.
The preacher man says it's the end of time.
Tous les ponts. Tous les ponts sont magiques. Hey, les gens de Prague connaissent le bonheur qu'il y a à traverser un pont. Le pont Charles en particulier. Ce pont qui s'étend au-dessus de la Vltava. Mais je délire en imaginant un pont qui ne passerait pas au-dessus d'un fleuve. Un pont sans eau en dessous est comme un sexe sec. Tous les ponts ont leur charme, mais un pont au-dessus d'une voie ferroviaire n'est qu'une ébauche de pont. Un pont qui mérite qu'on s'y intéresse a un rapport avec l'eau. Un fleuve, un pont, et moi dessus. Un fleuve, un pont, et moi dessus. Tant qu'à faire à Prague. Marchant, sans me presser, m'arrêtant juste au milieu, me penchant par-dessus la rambarde, regardant fixement cette eau, jusqu'à ce que mes yeux aient mal d'avoir tant nagé et qu'ils prennent conscience que mes pupilles se sont noyées. Avant que vienne à moi l'idée d'un suicide. Je suis là, debout, exactement. Ce qu'on appelle debout au milieu d'un pont. Et j'ai conscience, malgré mes yeux, que je suis au centre du monde et même au centre de l'univers. Je suis l'axe autour duquel tournent les galaxies, les nébuleuses et les trous noirs. Je sais par expérience que cette illusion ne dure que l'espace d'un instant, mais c'est suffisant pour moi. Et surtout, c'est gratuit et non partageable. Peut-être que cela vient des profondeurs de l'enfance. Pour l'enfant que j'étais, le pont signifiait la fugue, une fuite qui me permettait d'aller au galop vers l'autre côté de toute chose. Le vieux pont de Prague n'a pas la même identité que celui d'Avignon. Le pont d'Avignon ne vous laisse pas traverser le Rhône. Vous restez dans le lit du fleuve, le surplombant bêtement. Alors on cherche le symbole de cette traversée impossible. Pourquoi danse-t-on sur le pont d'Avignon ? Pourquoi danse-t-on sur un pont tronqué ? Un pont qui n'est pas un passage, un pont qui interdit la fugue. «
C'est comme si l'enfance était devenue le temps d'une longue frustration, une enfance interrompue soudain, avant d'avoir accédé à une berge inconnue et pourtant tant rêvée. Les hommes, quand ils ont enfin réalisé leur premier pont, ont dû être très fiers. La nature ne rigolait plus avec cet être étrange que nous étions. Des individus ont regardé les troncs d'arbres et leur ont trouvé une fonction pratique qui n'avait rien à voir avec l'écologie. Ils ont couché le tronc d'arbre au-dessus de l'abîme et ils ont marché dessus. N'est-ce pas qu'il y a quelque chose d'épique dans le sens pratique? Traverser un pont, on ne se rend plus compte. Un pont, c'est une vérité révélée par le fonctionnement cérébral que nous avons tous en partage, sans y penser à chaque instant. Le fleuve, c'était un danger que nous avions du mal à braver. L'eau froide et obscure, violente, qui avait fait tant de victimes parmi les nôtres. Voyez les grandes villes du monde entier. La plupart sont coupées par les fleuves. Nous l'avons voulu. Regardez où sont situées les cathédrales. Près des ponts qui les rendent attractives. Une grande ville est attrayante dans la mesure où elle nous suggère des aventures possibles. Je pense à Prague, mais aussi à Londres, à Florence, au Caire, à Paris, à Budapest ou à Bilbao. Qu'est-ce que la Tamise? Qu'est-ce que l'Arno, la Vltava, la Seine, le Danube, sans parler du fameux Nil? Sur les fleuves sont couchées des lignes droites faites d'acier, de pierre ou de bois. Ancienne ou moderne, peu importe, un pont, dès qu'il est posé, rentre dans une dimension immémoriale. Un pont n'a pas d'âge. Maintenant, auditeurs, fermez les yeux. Fermez les yeux et représentez-vous que vous êtes en train de traverser un pont, n'importe lequel, peu importe sa dimension. Vous y allez d'un côté, vous revenez par l'autre, le même pont dans un sens, puis dans l'autre. La folie vous guette, car chaque pont est le tronçon d'un autre pont, celui qui restera inaccessible à vos sens. Chaque pont vous mène vers le pont, celui qu'il vous reste à poser. Brooklyn, vous voyez la photo? Vous le connaissez au moins par cette photo. Eh bien, Brooklyn est plus beau à voir qu'à parcourir. Mais pour un beau pont, il faut des eaux tumultueuses. Toutes les chansons en témoignent. Le pont est le symbole de l'amitié. Même le pont sur la rivière Kwai, avec Alec Guinness dans tout son orgueil. Au Canada, le pont idéal est celui qui vous transforme en héros ou en amant, n'est-ce pas, Indiana Jones? Traverser un pont pour passer d'une aventure à une autre, toujours plus palpitante. Un pont, c'est le symbole de n'importe quoi, mais quand vous vous arrêtez au milieu, vous avez la sensation à la fois d'être immortel, vous marchez sur l'eau, et aussi, vous songez à ces suicidés innombrables qui ont décidé un jour de rompre le charme et de rejoindre sans transition l'élément liquide qui passe en dessous, avec de préférence un poids au cou. Vais-je traverser le fleuve ? Où vais-je me jeter à l'eau? Question. La seule question qui demeurera éternellement.
Et voici venir notre ultime rubrique, la rubrique Ba-Ba-Yaka. Celle que les précaires appellent, c'est gratuit, mais c'est cher. Bien. Puisque c'est là, ça invente, c'est cela sous Vaclaf. On va commencer par le commencement pour finir. Les produits de consommation. Un produit de consommation a pour usage premier d'être consommé. Je vous laisse le temps d'écrire, de réécrire cet adage superbe qui m'a valu quelques déboires quand j'ai créé Opus Ignam, moi, père Nicolas Portgarci. Oui, cet adage. Un produit de consommation a pour usage premier d'être consommé. Il sera long, je vous le dis, de faire accepter chez nous les pratiques sociales des papous de Nouvelle-Guinée. J'entends par là la gratuité. Avant d'être des citoyens avides et égocentrés, nous nous sommes pourtant posé la question de ce qui était premier. Moi, le premier. Il y avait le devin, le voyant, le sage, la pitié et le magicien. L'agriculteur, l'artisan, l'amoureux et les diplomates faisaient appel aux lumières de ces gens-là. Je dirais même que toutes nos techniques en découlent, de même que la science a une reconnaissance de dette vis-à-vis de l'astrologie. Il y a une part occulte dans chacune de nos activités. Aujourd'hui, pour le meilleur comme pour le pire, nos seuls gourous sont technologiques. Aussi, quels achats avez-vous fait ce matin? À quelle passion avez-vous cédé? Que croyez-vous posséder de nouveau, chers auditeurs? Les légumes. Ah, observons-les, les légumes. Ne sont-ils pas standardisés, ceux-là, que vous avez sortis de votre panier bioéquitable? Vous avez repoussé les végétaux qui avaient une allure monstrueuse, j'en suis sûr. S'ils ont une allure monstrueuse, vous ne faites pas confiance à leur goût, avouez. Au final, allons-y franchement. Peu importe l'intégrité du cultivateur, un produit de consommation ressemble à un produit de consommation. Remarquez, c'est logique. Je ne peux pas vous en vouloir, moi, père Nicolas Portgarci. Un estomac est un estomac qui se moque du goût et de la singularité. C'est une donnée claire et précise que vous m'avancez là. C'est une donnée première biologique. Le protocole n'admet pas d'exception. Au vu de cet état d'esprit, la gratuité aussi est une chose monstrueuse. La gratuité est une chose monstrueuse. L'acte gratuit menace l'équilibre global de la société. Attention, j'ai dit gratuit, je n'ai pas dit généreux. Ça, c'est autre chose. Dans gratuité, il y a échange et non compassion. Les habitants des îles trop brillants qui pratiquent la gratuité depuis les temps immémoriaux, vous l'apprendrez mieux que moi. Imaginez un libre service entre citoyens libres cohabitant dans une grande chaîne de loyauté. Je sais. C'est difficile à imaginer derrière le poste de radio. Essayons tout de même un instant.
pensée, j'en suis sûr, que quelques airs seraient lésés dans la répartition. Et que c'est pour cela qu'on a inventé l'argent. Nous, civilisés. Je réponds que c'est faux. Archi-faux. Et qu'il faut se représenter dans un tel contexte. Dans un tel contexte, nous fonctionnerions tous, sans exception, sur les mêmes bases sociales. L'argent a détruit l'esprit dont je cherche à me faire l'écho, moi, Père Nicolas Portgarcy, sur cette antenne. L'argent, de par sa nature, nous pousse à capitaliser, à mettre de côté, si bien que nos transactions sont bancales, inféodées à la comptabilité individuelle. L'épargne personnelle, le bien-fond, l'héritage programmé. Moi, à travers ces rubriques, j'ai voulu en revenir au prestige du monôme, comme cela se passe chez les papous. Mais le prestige, hormis celui du fric et de la valeur foncière, ici, tout le monde s'en fout. Soyons francs. La foire que j'avais baptisée les Ignames a totalement foiré. Qu'à cela ne tienne, c'est vrai qu'il fallait payer une patente pour y participer à cette foire. Tout le monde a senti une arnaque. Pendant ce temps, je déplorais que la société entière n'était pas convertie à la gratuité et j'expliquais qu'en tant qu'organisateur de la foire, j'avais des frais à couvrir. Vain discours. Le doute s'était introduit parmi les exposants et je pense que là-dedans, il y eut des influences occultes. Mais lesquelles ? Qui lutte contre la gratuité. Et on m'a demandé ce que signifiait ce nom « Igname Market ». Je le redis ici, avec force. Cela voulait dire la promotion à grande échelle de la priorité donnée à l'échange et aux produits issus du labeur individuel mis en commun. Je crois que j'ai cette sale tendance à être trop unilatéral. Et puis, il me faut du temps pour me remettre des procès dont je suis l'objet. En l'occurrence, je cite, transactions illicites, abus de confiance, maquignonnage et imposture commerciale. Vous voyez ce qu'on vous met sur le dos quand vous encouragez la gratuité généralisée. C'est du lourd.
Toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'ils te conduisent à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel.
L'Auvergnat, bien sûr, de Georges Brassens, pour conclure cette émission consacrée aux tchèques et aux brasseurs et à la gratuité en même temps. Bon, en fait, c'est comment donner du mouvement au statique, c'est très difficile, et comment rendre statique ce qui est trop mouvementé. C'est une question qu'on vous pose, que vous allez résoudre certainement, chacun et chacune, d'ici minuit ce soir. Nous allons bientôt vous laisser avec la bande passante, dite bande continue de Radio Canu, concoctée par un certain nombre de ses animateurs, éclectiques et néanmoins... belle. Ceci jusqu'à 17h, où vous allez retrouver l'émission Intrinsèque, les musicalités rappeuses qui se frictionnent et se marient avec les musicalités funky aujourd'hui. À 18h, l'émission Grain de sable, l'émission d'attaque, où on fera un point sur la loi Travail, qu'on rebaptisera la loi capitale. Et ensuite, le journal, comme chaque jour de la semaine hebdomadaire, le journal de Radio Canu. Si tout se passe bien pour ce qui me concerne, on se retrouvera la prochaine semaine hebdomadaire à la même heure. Nous serons la Saint-Sucre des fleurs. Noble, saint quand même, et c'est le patron des insectes.